Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Jean-Didier Berthaud, conseiller de Paris, élu du 17e arrondissement, membre d'Agir les Constructifs et du groupe 100% en Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Jean-Didier Berthaud, première question, vous appartenez à un nouveau groupe politique qui siège depuis le début de la semaine au Conseil de Paris, groupe réuni autour de Pierre-Yves Bournazel. J'ai lu qu'il était composé de personnalités issues de la droite, du centre et de la société civile, un groupe qui se veut libre des enjeux nationaux et des contingences partisanes. Quel sera le rôle de ce groupe dans les 8 ou 9 mois qui nous séparent des élections municipales ?
Vous en avez déjà dit beaucoup. Alors effectivement, nous avons décidé avec Pierre-Yves Bournazel et autour de lui de constituer ce groupe 100% Paris, qui a vu le jour pour son premier Conseil de Paris depuis mardi. L'objectif est de construire ensemble une offre politique qui soit nouvelle et qui soit la plus large possible de rassemblement et autour de projets, et que ce soit une offre positive. Aujourd'hui, beaucoup de Parisiens, vous le savez, sont quelque peu éloignés de cette majorité municipale. Donc le but n'est pas de se construire contre la maire de Paris, mais d'être aussi positif, d'aller sur des projets qui peuvent rassembler bien au-delà des partis politiques. Aujourd'hui, on ne peut pas gagner une ville sur une proposition d'un parti politique. Personne ne pourra le faire. Les choses ont changé, les choses ont évolué et nous avons souhaité, autour de propositions concrètes, avec des équipes qui sont des équipes locales, qui sont implantées dans leurs arrondissements, qui ont chacune leur histoire d'ailleurs. Vous avez cité des personnalités qui viennent des Républicains, des personnalités qui viennent du centre, des personnalités qui n'appartenaient pas forcément d'ailleurs, et des élus qui n'appartenaient pas forcément à des partis politiques, de construire cette majorité de projets et puis de la proposer, de l'élargir au fur et à mesure des mois qui nous séparent aujourd'hui de l'élection municipale.
Vous qui êtes issu de la droite, travailler comme ça avec des élus de toute sensibilité, c'est quelque chose de nouveau pour vous ?
Alors vous savez, moi, mon parcours politique, il est fait effectivement de rencontres, et c'est Philippe Séguin qui m'a permis d'accéder au Conseil de Paris en 2001. Donc avoir une offre politique qui est une offre de rassemblement issue du gaullisme social, et de travailler largement avec des interlocuteurs et des collègues qui viennent de sensibilités différentes, c'est absolument pas un problème pour moi. Et en plus, sur des sujets municipaux, vous savez, le concret, le quotidien, et ce que nous devons faire au service des habitants, ça nécessite d'aller au-delà des clivages partisans. Et je pense que d'ailleurs tous les maires d'arrondissement, qu'ils soient de droite comme de gauche, que vous connaissez et que vous recevez ici, vous feront la même analyse de leur électorat et de leurs concitoyens.
L'idée de ce groupe, c'est d'accompagner notamment la candidature à la mairie de Paris de Pierre-Yves Bournazel.
Ah oui, clairement. Aujourd'hui, Pierre-Yves Bournazel a cette légitimité. Il est animé par Paris. Vous savez, Pierre-Yves, on a une histoire commune, puisqu'il est arrivé dans le 17e arrondissement comme collaborateur avant d'être élu en 2008. Il a gagné sa légitimité par les dossiers et par les compétences qu'il a eues sur Paris. Il s'est fait élire au Conseil de Paris en 2008, dans un arrondissement dans le 18e, qui était un arrondissement pour la droite et le centre difficile. Il en a été la tête de liste. En 2014, il a été réélu au Conseil de Paris. Il a gagné sa circonscription dans le 18e, dans des circonstances aussi compliquées, en 2017. Donc, il a cette légitimité, il a ce parcours de terrain, il a aussi cette vision de Paris qui n'est pas clivante et qui s'inscrit dans l'ancrage local des élus, de la vie associative et de ce qu'aujourd'hui, ces réseaux font Paris. Donc il est absolument important et essentiel qu'on ait cette offre politique qui soit incarnée, et c'est lui qui l'incarne aujourd'hui le mieux.
Vous dites que Pierre-Yves Bournazel, finalement, n'a pas une vision clivante de la politique. En creux, c'est un peu ce que vous reprochez à la maire sortante, d'avoir suscité trop de clivages.
Clivance, c'est presque même trop peu pour désigner la politique d'Anne Hidalgo aujourd'hui. C'est même une politique qui est animée par un certain sectarisme aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que toute la construction de politique d'Anne Hidalgo qui assume les responsabilités depuis 18 ans à la mairie de Paris, parce qu'elle a été première adjointe pendant le mandat de 2001 et de 2008. Elle est aujourd'hui maire de Paris depuis 2014. Donc on est en droit d'estimer que Paris a besoin aussi d'une nouvelle respiration démocratique. Et aujourd'hui, l'incarnation d'Anne Hidalgo, c'est pour le coup beaucoup de sectarisme, beaucoup de refus aussi de propositions qui viennent de l'opposition régulièrement et qui sont d'intérêt général. Bref, c'est très compliqué de faire passer ces idées aujourd'hui au sein d'un Conseil de Paris qui est totalement verrouillé et qui n'est pas un espace de démocratie. Donc il faut faire respirer tout cela, et je crois que d'ailleurs Anne Hidalgo, qui a changé d'avis sur bien des sujets, se rend bien compte aujourd'hui de l'impasse dans laquelle elle est.
Elle a changé de sujet, notamment sur la police municipale.
Entre autres, travail le dimanche, sur Autolib, sur Vélib, sur la police municipale. Vous savez, un jour, on m'a demandé, mais est-ce que vous partagez l'opinion d'Anne Hidalgo sur certains sujets ? J'étais obligé de répondre oui, forcément qu'à un moment donné, on est d'accord avec elle, puisqu'elle change tout le temps d'avis. Donc,
c'est finalement un signe d'intelligence de reconnaître qu'on a pu se tromper à un moment donné et de s'adapter à la nouvelle donne. Vous dites qu'elle est sectaire, mais vous êtes en train de nous démontrer qu'elle est capable de changer et d'être à l'écoute.
Mais je pense qu'elle n'est pas à l'écoute. Je pense qu'elle prend des postures qui sont souvent très, très électoralistes et dont on peut contester la sincérité aujourd'hui. Je prends un exemple sur lequel Pierre-Yves Bournazel et d'autres élus d'ailleurs de gauche, notamment écologistes, s'étaient mobilisés sur le stade Ménilmontant. Après avoir expliqué pendant plusieurs mois que le projet se ferait sur le stade Ménilmontant, quand elle, au lendemain de l'élection européenne où elle constate que le score des Verts est important, elle abandonne le projet. Il n'y a pas de vision, parce qu'en parallèle, on fait Bercy-Charenton. En parallèle, on consolide la Tour Triangle. Donc si vous voulez, aujourd'hui, pour moi, vous parliez d'un signe d'intelligence de changer d'avis. Le signe d'intelligence, ce serait d'avoir une véritable vision cohérente de la ville, et aujourd'hui, elle ne l'a pas.
Quelle est la vision de votre groupe 100% Paris ? Est-ce que votre réflexion est déjà très avancée, ou bien vous êtes en train de construire le projet et vous attendez, je dirais, des contributions qui vont arriver dans les semaines et les mois qui viennent ?
Non, sur un certain nombre de propositions, nous avons déjà avancé. Nous avons clairement dit, quand nous avons constitué le groupe, que nous étions attachés, par exemple, à la construction de la métropole et au développement de la métropole, que nous étions aussi profondément européens, que nous étions aussi soucieux des sujets environnementaux. Et tout ce qui a été fait, notamment par Pierre-Yves Bournazel, l'a montré sur la lutte contre la densification de Paris. Et puis les propositions, elles vont venir. Nous sommes aujourd'hui à la veille d'un événement important pour nous, puisque lundi prochain, lundi 17 juin à 19h au Bus Palladium, ce sera l'occasion d'une première rencontre avec tous les milieux culturels de Paris, ceux qui font la culture d'ailleurs à tous les étages, qui se retrouveront avec des propositions concrètes de Pierre-Yves Bournazel sur le sujet. Donc ces propositions, au fur et à mesure du temps, soit elles ont été déjà crantées parce qu'il y a eu des propositions faites depuis un certain nombre de mois, voire un certain nombre d'années, parce que la police municipale, c'est depuis 2013 que Pierre-Yves en a parlé, et que d'autres élus d'ailleurs dans notre groupe en ont parlé. Philippe Goujon, le maire du 15e arrondissement, connaît très très bien et parfaitement ce sujet.
Il l'a évoqué,
qui nous a rejoint, tout à fait. C'est la raison pour laquelle il faut aujourd'hui donner de la cohérence à ces propositions qui sont faites depuis plusieurs années ou plusieurs mois, et bien sûr les alimenter avec des perspectives nouvelles et donner aux Parisiens une vision claire des projets que nous voulons construire avec eux.
La culture, ça n'est pas une des plus grandes réussites d'Anne Hidalgo. On va parler des questions de transport, de sécurité peut-être, des échecs qui lui sont imputés. Mais finalement, sur la culture, il y a énormément de grands moments à Paris autour de la culture. Est-ce que ça n'est pas à mettre à l'actif d'Anne Hidalgo et peut-être de Bertrand Delanoë qui était là avant elle ?
Tout n'est pas mauvais dans le bilan de la maire de Paris. Et dans un bilan municipal d'un maire, tout n'est pas mauvais, bien évidemment. Celui d'Anne Hidalgo comprend aussi un certain nombre de points positifs, celui de Bertrand Delanoë encore plus. Mais vous voyez bien que ce que vous venez de me citer, par exemple, sont des grands événements culturels. Aujourd'hui, la culture aussi, c'est la culture de proximité. C'est comment on intègre aussi cette culture au sein des quartiers. Bref, il y a tout un pan aujourd'hui culturel qui n'est pas encore totalement assimilé et sur lequel on a des propositions à faire concrètes. Et d'ailleurs, les milieux culturels et les acteurs de la culture qui seront présents ne se reconnaissent pas totalement dans ce bilan et pensent qu'il est perfectible. C'est la raison pour laquelle, à leur côté, il est aussi bon de travailler, de les écouter et de, derrière, de pouvoir avoir une politique qui soit plus lisible.
Quand Anne Hidalgo affirme que Paris est une ville monde, finalement, Paris est un label aussi à l'étranger. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision de Paris qui est une ville monde?
Je vais vous donner un exemple, Monsieur Barrière. Je suis totalement d'accord avec cette vision et avec cette approche. Et je vais vous donner un exemple qui date d'il n'y a pas plus longtemps qu'il y a deux jours où j'étais l'orateur du groupe 100% Paris, un des deux orateurs du groupe 100% Paris, pour notre vision de la métropole et de la communication sur la métropole. 15 pages de communication de la part de la maire de Paris, et je suis intervenu sur les sujets environnementaux, mais aussi pour dire que sur 15 pages, il n'y avait pas une seule ligne sur l'international. Alors qu'aujourd'hui, le sujet majeur des grandes métropoles, c'est de se benchmarker, entre guillemets, ce parangonnage entre les grandes villes, arriver à trouver qu'est-ce qui nous différencie, mais qu'est-ce qui nous rapproche aussi, comment gagner du temps sur la transition énergétique, comment arriver à une adaptation climatique plus efficiente entre les villes. Bref, elle est présidente du C40, elle est première vice-présidente de la métropole en charge des relations internationales, pas un mot. Donc quand je vous parlais d'un manque de cohérence et d'un manque de vision, on a l'impression que tout ça, ce sont des petites mesurettes mises bout à bout, sans aucune vision de la ville. Bon, c'est certainement ce qui manque le plus dans ce bilan.
Il y a quelques minutes, Jean-Didier Berthaud, vous avez souligné que Paris était une ville européenne et que vous aviez une vision européenne pour Paris. Qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie notamment une meilleure approche aussi entre ces villes européennes pour aller plus vite et plus loin dans certains secteurs, sur les mobilités, sur la transition énergétique, sur le social, sur la culture notamment, et puis peut-être sur la gouvernance aussi. On a beaucoup à apprendre sur la gouvernance. Vendredi 21 et samedi 22 juin, j'ai organisé avec Pierre-Yves Bournazel un déplacement à Berlin. Nous serons reçus par différentes personnalités politiques et élus de Berlin, associatifs aussi. La gouvernance, elle est tout à fait différente. Elle est autour de projets parce que, comme vous le savez, dans les villes d'Europe du Nord et dans les pays d'Europe du Nord d'ailleurs, on travaille beaucoup par coalition notamment. Ça permet à chacun de rester dans sa famille politique, de ne pas se renier, mais de faire cause commune autour de grands projets.
Ça, c'est une culture que nous devrions acquérir?
En tout cas, c'est une culture qui fait ses preuves ailleurs. Donc je pense que l'échelon municipal, en tout cas, est un bon échelon pour pouvoir la tester.
Lors de la création de ce groupe, Pierre-Yves Bournazel a déclaré que face au populisme, l'humanisme et la solidarité ont besoin d'être portés et revendiqués dans le discours public. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie être progressiste dans une ville comme Paris?
Être progressiste dans une ville comme Paris, c'est ne pas être clivant sur des sujets sociétaux. C'est faire attention aussi aux personnes isolées, aux personnes avec aujourd'hui qui n'ont pas les moyens peut-être aussi de s'intégrer à la vie parisienne et que Paris a pu rejeter à l'extérieur. Et je ne parle pas forcément d'ailleurs des plus défavorisés, mais je parle aussi des classes moyennes qui, on le voit bien, dans les arrondissements comme dans lequel je suis élu, dans le 17e arrondissement, on a perdu peu à peu nos classes moyennes. Dès qu'on a des revenus moyens et qu'on commence à avoir un enfant, voire deux enfants, on ne peut plus se loger à Paris. Donc c'est tout cela aujourd'hui qui fait que l'offre doit être non seulement humaniste, mais aussi progressiste, et que nous devons arriver au-delà des grands mots de démocratie participative, de tout l'habillage qu'on a connu ces dernières années, à aller bien au-delà et à toucher l'humain. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, il faut peut-être réhumaniser la politique à Paris, la sortir de ces clivages partisans et la réhumaniser parce qu'à Paris, les décisions se prennent toujours beaucoup plus lentement qu'ailleurs et les citoyens se demandent pourquoi. Se demandent pourquoi, quand il s'agit de refaire une voirie, c'est beaucoup plus long. Quand il s'agit de végétaliser, c'est beaucoup plus long. Le processus démocratique est trop long.
Est-ce que ce processus démocratique peut être amélioré en changeant les missions des maires d'arrondissement? Est-ce que tout doit être centralisé à l'hôtel de ville?
Mais vous le voyez bien, les maires d'arrondissement sont obligés de prendre les choses en main. Je prends l'exemple du 17e arrondissement et du maire du 17e, Geoffroy Boulard. Vous avez vu peut-être les initiatives qui ont été prises récemment dans le 17e, une application pour lutter efficacement contre la prolifération des rats, une autre application qui s'appelle Détritus pour signaler notamment les rues les moins bien entretenues et que les services municipaux puissent passer. Bref, nous sommes obligés en arrondissement, et Geoffroy Boulard l'a très bien fait avec son équipe, d'arriver à proposer un certain nombre d'outils aujourd'hui aux concitoyens pour simplifier et améliorer la vie quotidienne de ses concitoyens. Ce qui veut bien dire qu'il y a un échelon aujourd'hui qui est l'échelon de l'arrondissement, qu'il est absolument indispensable de valoriser, parce que qui mieux que les élus d'arrondissement et de quartier connaissent les besoins de quartier en étant au contact au quotidien avec ses habitants. Donc ça passe aussi par une profonde réforme de la gouvernance de Paris.
Est-ce qu'il faudrait aussi modifier les horaires de travail de certains employés municipaux pour répondre, je dirais, aux besoins des habitants qui ont changé d'habitude?
Oui, ça a été le cas. Et je vous reprends encore un exemple d'une proposition faite commune par Pierre-Yves Bournazel et Anne-Christine Lang, députée La République En Marche du 13e arrondissement, qui avait proposé à plusieurs reprises au Conseil de Paris une extension des horaires des bibliothèques, par exemple. Ce qui veut dire que, oui, les services municipaux, les services qu'on doit rendre à nos concitoyens, doivent aussi s'adapter. Alors évidemment, ça doit se faire dans tout le cadre des discussions à avoir avec les fonctionnaires de la ville de Paris. Mais en tout état de cause, ces services municipaux aujourd'hui doivent également s'inscrire dans cette profonde réforme de la société et du style de vie des habitants.
Jean-Didier Berthaud, comment accueillez-vous la démission de Florence Berthoud des Républicains et donc de la présidence du groupe LR et indépendant au Conseil de Paris ?
Mais écoutez, Florence Berthoud était ma présidente de groupe avant que, avec Pierre-Yves Bournazel, nous décidions de créer le groupe 100% Paris. Moi, je suis et j'avais quitté ce groupe avant que Florence Berthoud fasse part de sa démission. Je crois que c'est une décision qui est très personnelle. C'est une élue qui est très engagée dans son 5e arrondissement, qui est une vraie élue de terrain, que j'ai eu l'occasion de beaucoup côtoyer lors de la campagne de Nathalie Kosciusko-Morizet en 2014 et qui a été vraiment une combattante de terrain qui, depuis 2014, a fait un énorme travail. Je crois que sa démission du groupe des Républicains, c'était également une envie de se concentrer sur son arrondissement et un message politique également qu'elle a adressé et qui aujourd'hui est public, donc je n'ai pas à le commenter.
Un message politique que vous pouvez partager? Vous ne vous reconnaissez plus dans ce qui est devenu le Parti Les Républicains aujourd'hui?
Moi, vous savez, j'ai quitté Les Républicains il y a maintenant un an, mais au terme d'un processus qui était tout à fait personnel, sans me fâcher d'ailleurs avec mes anciens amis des Républicains.
Oui, puisque vous travaillez avec Geoffroy Boulard.
Mais je travaille au quotidien avec Geoffroy Boulard. Je continue à avoir des gens qui sont impliqués au niveau des Républicains. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on quitte à un moment donné et qu'on fait un choix personnel de quitter sa famille politique après avoir milité pendant 30 ans au sein d'une famille politique. Vous savez, c'est jamais agréable et confortable. Beaucoup m'avaient dit à l'époque, tu t'en vas des Républicains pour faire autre chose. Je rejoins un parti qui s'appelle Agir, qui était en création. Quand on est installé dans un arrondissement à l'ouest, traditionnellement à droite, qu'on quitte les Républicains pour aller dans un parti en création, on ne choisit pas le confort. Mais moi je fais partie de ceux qui pensent que je n'ai pas quitté les Républicains, que c'est un petit peu les Républicains, ou en tout cas la ligne nationale des Républicains qui m'avait quitté.
Pour 2020, Florence Berthoud souhaite une plateforme d'alternance qui s'inspire de toutes les bonnes idées, une majorité qui aille de la droite au centre-gauche. Florence Berthoud aurait sa place dans la majorité que vous tentez de construire autour de Pierre-Yves Bournazel?
En tout cas, elle en donne la parfaite définition.
L'invité de Pluriel est Jean-Didier Berthaud, conseiller de Paris, élu du 17e arrondissement de Paris, membre d'Agir les Constructifs et du groupe 100% Paris. On se retrouve dans quelques instants.
Animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel, nous sommes toujours en compagnie de Jean-Didier Berthaud, conseiller de Paris, élu du 17e arrondissement, membre d'Agir les Constructifs et du groupe 100% Paris au Conseil de Paris. Alors si vous étiez aux responsabilités aujourd'hui, quelles mesures prendriez-vous pour régler la situation à la porte de la Chapelle, une zone que de nombreux habitants ou même des taxis essayent d'éviter ? En raison du contexte de violence, et aussi il y a cette misère aussi qui nous interpelle.
La réponse, elle est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est véritablement organiser aujourd'hui d'une façon beaucoup plus certainement construite l'accueil et les flux sur place, tenir compte aussi de cette détresse qui est aux portes de Paris. Et puis le deuxième niveau de réponse, il ne peut être qu'au niveau aussi d'une réponse de fermeté, puisque une fois que les décisions ont été prises, il faut ensuite les respecter. Il faut éviter cet appel d'air permanent et ce renouvellement, et il faut que les règles du jeu soient claires. Aujourd'hui, je pense que sur ce sujet, les règles du jeu ne sont pas claires. On voit bien les effectifs de police faire leur travail et faire régulièrement un certain nombre de contrôles, pour chasser ceux qui se sont spécialisés dans la revente du crack. Mais la situation, elle est intenable. Elle est intenable à long terme, bien évidemment pour les riverains, pour toutes les personnes qui passent dans ce secteur. Donc je pense que ça ne peut se faire que par une parfaite collaboration qui existe quand même entre les services de la préfecture de police et les services de la ville de Paris, et avec, à mon avis, peut-être plus que ça ne l'est aujourd'hui, une implication aussi de la mairie d'arrondissement et du quartier pour régler de façon durable le problème. Aujourd'hui, on a l'impression que ça a été à un moment donné, une brèche qui a été colmatée, puis ça a été un enjeu de politique nationale. Et ça, c'est très mauvais, parce que la maire de Paris en a fait un enjeu de politique nationale contre le gouvernement à l'époque où le ministre de l'Intérieur était Gérard Collomb. Et quand on commence à faire de ces enjeux des enjeux de politique politicienne, on ne règle pas le problème. Et on voit bien que finalement, la maire de Paris, par son attitude, l'a même peut-être un peu amplifiée. En ne donnant pas aux différents interlocuteurs les possibilités sereines d'une sortie de crise et d'un règlement pérenne de ce sujet.
Alors, j'ai vu que le président du groupe communiste au Conseil de Paris a proposé une étude pour construire une nouvelle ligne de métro à grande capacité autour de Paris, car le tramway semble déjà saturé. Est-ce que vous pouvez souscrire à cette demande ?
D'une façon générale, je n'ai pas les éléments techniques pour savoir si cette demande est pertinente. Mais en tout état de cause, d'une façon générale, si nous voulons réduire la place de la voiture à Paris, il nous faut proposer des solutions alternatives de déplacement. C'est d'ailleurs, je pense, toute la différence de vision que nous avons eue avec une partie de la majorité municipale pendant cette mandature et même les précédentes. C'est que les décisions ont été prises de façon arbitraire alors que l'offre n'était pas encore totalement construite. Et donc forcément, si vous punissez les gens à un moment donné en leur disant « on va faire en sorte que vous ne puissiez pas prendre votre voiture », mais qu'effectivement, ils n'ont pas d'autre moyen que de continuer à traverser Paris et qu'on ne peut pas le contourner, puisqu'on sait très bien que c'est une carte de Paris de transport qui est très centralisée et que pour aller d'un point A à un point B de banlieue, très souvent, on est obligé de repasser par Paris, que ce soit en voiture ou que ce soit en transport en commun. On règle aucun problème. Donc forcément, le tramway a été une solution, mais le tramway, c'est une solution pour gagner du temps. Mais c'est la ligne PC, en fait, qui est sur le tramway. On n'a pas inventé un nouveau parcours. Le parcours du Grand Paris Express, par exemple, va déjà permettre de régler un certain nombre de problèmes, mais les livraisons vont s'étaler jusqu'en 2025, 2030, 2035, donc ce n'est pas pour demain non plus. Les Jeux Olympiques vont certainement permettre aussi des nouvelles infrastructures, mais aujourd'hui, cette proposition fait partie de quelque chose de plus général sur une politique de la mobilité, je dirais même des mobilités. Voilà. Donc il faut qu'on soit au cœur, et là aussi, il faut que ce soit en bonne intelligence. La ville de Paris est obligée de travailler avec Île-de-France Mobilité. Île-de-France Mobilité qui dépend de la région.
Ça n'est pas le cas aujourd'hui ? Vous sentez qu'entre Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, qui s'étaient bien entendus sur la question des Jeux Olympiques, sur la question des transports, il pourrait y avoir plus de convergence ?
Oui, parce que quand la ville de Paris annonce de façon unilatérale des mesures encore très électoralistes de gratuité dans les transports publics, tout ça n'est pas concerté avec Île-de-France Mobilité. On voit bien que notamment sur les nouvelles lignes de bus, puisque le plan bus d'Île-de-France Mobilité a été revu au mois d'avril dernier, ben on continue à avoir des problèmes très concrets et matériels d'installer encore des interminus de bus dans certains endroits. Donc tout ça n'est pas fluide et on ne donne pas aujourd'hui tous les moyens à une politique alternative de transport d'arriver concrètement à exister.
Alors les Parisiens entendent souvent parler du Grand Paris, mais on a l'impression que c'est peut-être la génération d'après qui va connaître les réalisations, même si ça arrivera peut-être dans 5 ans, 6 ans, 10 ans. Est-ce qu'il n'y a pas des mesures, je dirais, à prendre, peut-être provisoires, mais tout de suite pour améliorer les transports en commun, davantage de bus, d'autres types de transports, des transports fluviaux par exemple, des choses qui pourraient être mises en place assez rapidement ?
Alors, sur les transports fluviaux, vous avez complètement raison. Paris est une des rares villes au monde qui est traversée par un fleuve et qui lui tourne le dos. La plupart des villes qui ont cet atout, et la plupart des villes se sont construites autour des fleuves, parce que c'est l'histoire du commerce, voilà. Donc, la plupart des grandes villes européennes ou mondiales se sont construites autour des fleuves et utilisent ce fleuve. Alors c'est vrai que la Seine c'est pas le Rhin, hein, c'est pas un fleuve avec un débit aussi important, c'est pas un fleuve aussi large, mais quand même, on pourrait faire beaucoup plus pour le développement du transport fluvial et notamment du transport de passagers. Vous savez que les fameux bateaux-bus, c'est quelque chose qui n'a jamais fonctionné finalement. Donc je pense qu'il y a une offre qui doit être améliorée, qui doit être réfléchie. Et puis aussi les offres de quartier à quartier, de micro-quartier, avec des navettes électriques, un certain nombre de choses à arriver à imaginer. Et puis surtout, par-dessus tout, la modernisation de ces transports. Je pense que c'est extrêmement important que les transports publics soient aussi climatisés quand il fait très chaud l'été, parce que la moindre petite voiture qu'on achète entrée de gamme aujourd'hui, elle a une climatisation, et que quand vous êtes plus confortablement installé dans votre voiture avec de la musique, la radio et la climatisation, ben vous n'êtes pas forcément, quand il fait 40 degrés, incité à prendre des transports en commun. Et puis aussi par l'offre de mobilité, peut-être au niveau connecté, c'est-à-dire que il faudrait que sur la même application, on puisse avoir accès et payer le métro, le bus, éventuellement Vélib, Autolib, enfin en tout cas tout ce qui est en free-floating, de façon plus efficace.
Et Jean-Didier Berthaud, il y a beaucoup de bus à Paris, et en même temps, quand on se trouve dans un bus, on est parfois pris dans des embouteillages. C'est tout de même un problème aussi en termes de mobilité.
Vous savez, aujourd'hui, l'organisation de l'espace public et de la voirie, il suffit de se balader un petit peu dans Paris pour voir que les embouteillages, on les a un peu créés. C'est-à-dire qu'une meilleure organisation de l'espace public, une meilleure, certainement, organisation aussi des séquences de travaux dans Paris, parce qu'on n'est peut-être pas obligé de les faire tous en même temps, dans toutes les rues en même temps. Des concessionnaires aussi, parce que très souvent, vous voyez, même si ça s'arrange un peu, mais Haute-Paris qui vient faire son petit trou, et puis ensuite le gaz qui vient faire son petit trou, la CPCU qui vient faire son autre petit trou, et ça fait finalement des gros trous. Et puis ça crée aussi une embolie en termes de circulation. Donc tout n'est pas dû aussi à la circulation automobile. D'ailleurs, on le voit, les statistiques le montrent à Paris, la circulation automobile, les usagers automobiles diminuent. Donc c'est absolument anormal qu'avec une utilisation de l'automobile qui diminue, on est une embolie constante de Paris. Il y a une organisation de l'espace public aujourd'hui qui fait que on crée volontairement ou involontairement, je ne sais pas, par un manque d'organisation, une saturation.
Alors j'ai envie de savoir qui est derrière ce « on ». On crée de l'embolie. Certains de ces chantiers ne sont pas dus à l'hôtel de ville. Il y a des chantiers qui viennent de l'État, Jean-Didier Berthaud.
Mais les chantiers qui viennent de l'État, à un moment donné, l'État n'impose pas aussi l'ouverture des tranchées dans Paris directement. Donc je pense qu'avec une puissance administrative et de planification comme l'hôtel de Villars, il y a quand même aujourd'hui un problème de gouvernance et de planification à moyen long terme de ces travaux et de discussion aussi avec l'État. Parce que ça pourrait être aussi la ville qui aménage ses propres travaux en fonction des exigences de l'État, en fonction du RER, en fonction d'un certain nombre de travaux qui doivent être faits. Aujourd'hui, visiblement, ça n'est pas le cas. Je crois qu'il y a un problème général de management. l'équipe est usée, voilà. Donc il faut donner une respiration, et c'est ce que l'on propose. Mais vous savez, 18 ans et l'année prochaine 19 ans de pouvoir, bah, on prend des habitudes, on en prend aussi des mauvaises, on se remet plus en cause, et puis ça donne aujourd'hui la situation qu'on connaît.
Jean-Didier Berthaud, est-ce que vous utilisez des trottinettes électriques dans Paris ?
Non, très honnêtement, moi je ne l'utilise pas. Alors j'utilise le métro et le bus tout le temps. J'avais un véhicule personnel que je suis en train de vendre, donc je n'aurai plus de véhicule personnel. Donc je suis en transport en commun. Je suis de temps en temps, pour tout vous dire, s'il est un peu tard le soir ou quoi, en VTC. Mais je n'utilise pas le free-floating au niveau des trottinettes.
Alors il y a eu des blessés, une personne en trottinette tuée par une camionnette. Anne Hidalgo a décidé de réagir en limitant la vitesse des trottinettes et le nombre de prestataires privés. Est-ce que ça va régler ce problème de trottinettes qui est en train vraiment de tendre l'atmosphère ?
En tout cas, c'est bien d'avoir pris le sujet en main. Elle l'a pris aussi parce qu'il y a eu énormément de contributions sur le sujet et de propositions. Je voudrais prendre l'exemple de deux élus de mon arrondissement, Brigitte Custer qui en est députée et Catherine Dumas qui en est sénatrice, qui ont porté au Parlement, au niveau de la loi mobilité, un certain nombre d'amendements aussi pour réglementer et pour mieux réglementer ces trottinettes. Bon, là encore, on prend le sujet, malheureusement, au niveau de la ville, une fois que le mal est fait. C'est-à-dire que cette organisation, on peut imaginer du moment que on voit un nouveau mode de transport s'installer, des sociétés arriver en free-floating et commencer à installer de façon très anarchique sur l'espace public ces trottinettes, on pouvait imaginer que ça allait vite devenir ingérable. Bon, on a laissé les problèmes se développer et maintenant on aborde des solutions. Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'on arrive aux meilleures solutions possibles, parce qu'aujourd'hui, effectivement, la situation, elle est devenue à la fois ingérable et dangereuse. Vous avez souligné qu'il y a eu un décès. Il y avait eu déjà plusieurs accidents, dont un dans le 17e arrondissement, il n'y a pas très longtemps, avec une mère de famille et ses enfants.
Une pianiste aussi qui se demande aussi si elle va pouvoir continuer à jouer du piano.
Exactement, voilà, ce n'est pas normal qu'avec des modes de transport dits doux, on en arrive à des situations aussi dramatiques.
Et en même temps, on a interdit aux trottinettes de circuler sur les trottoirs et on constate qu'elles continuent à circuler sur les trottoirs. Qu'est-ce que ça dit aussi du respect des lois qu'on prend.
Mais vous avez raison, c'est de l'incivilité. C'est de l'incivilité comme on pourrait aussi le dire et le regretter sur la propreté. C'est-à-dire que oui, les rues de Paris sont très sales. Oui, il y aurait certainement beaucoup de choses pour améliorer la propreté à Paris en termes d'organisation, de délégation de services publics, de trouver des solutions qui soient des solutions innovantes et qui permettent aussi de mettre les nouvelles technologies au service de la propreté. Mais en tout état de cause, le citoyen, il doit être aussi responsable. Et aujourd'hui, on voit bien que certaines personnes ont totalement un mépris de ce qui peut être fait et salissent, je dirais pas un plaisir, mais en tout cas avec une totale insouciance.
Ils ne sont pas tous parisiens d'ailleurs, Paris est une ville traversée par
Ils ne sont pas tous parisiens, mais vous personnes. Disiez sur les incivilités des trottinettes sur les trottoirs. Moi, je peux vous dire que je suis dans un conseil de quartier qui est proche du périphérique, où il y a pas mal de personnes âgées isolées qui habitent. Certaines me disent qu'elles ont l'angoisse aujourd'hui de pouvoir sortir même de leur domicile par rapport à cela, par rapport à ces problèmes de trottinettes et par peur d'être renversé par des trottinettes. Ça l'était avant par des scooters aussi qui roulaient sur les trottoirs, là où les trottoirs sont assez larges. Donc oui, aujourd'hui, l'espace public est devenu anxiogène.
Voilà. Ça, c'est une nouveauté, effectivement. Trottoir était jusqu'à présent une zone totalement protégée.
Exactement. C'est une nouveauté et je pense que ce n'est pas à mettre à l'actif du bilan de la municipalité actuelle.
Jean-Didier Berthaud, Pierre-Yves Bournazel n'est pas membre de La République En Marche. Pour autant,
moi non plus.
Ami avec le Premier ministre, Édouard Philippe,
qui n'en est pas membre non plus.
La majorité. Est-ce que ça signifie qu'il y aura plusieurs candidats soutenant le gouvernement à la mairie de Paris? Est-ce que Pierre-Yves Bournazel sera opposé à Benjamin Griveaux, candidat de La République En Marche, ou bien il pourrait y avoir un accord avec La République En Marche autour de la candidature de Pierre-Yves Bournazel.
Écoutez, tout ce que je viens de vous dire depuis le début de l'émission, c'est que nous étions sur une construction d'une offre politique qui dépassait des clivages partisans. Donc on n'est pas sur des histoires d'état-major politique pour savoir qui va faire alliance avec qui. La République En Marche, qui est le parti du président de la République, qui est le parti majoritaire à l'Assemblée nationale, est dans une démarche aujourd'hui de sélection de leurs propres candidats. Ils sont, je crois, 6 aujourd'hui candidats à la candidature ou à la primaire ou à la commission d'investiture. Je ne sais pas trop. Moi, je ne suis pas membre de La République En Marche. Édouard Philippe ne l'est pas non plus. Pierre-Yves Bournazel ne l'est pas non plus. Donc moi, j'ai le plus grand respect de ce qui sera décidé par des gens qui ne sont pas dans ma formation politique. Et je suis vraiment le dernier à pouvoir commenter ce qui sera fait. Voilà. Donc je crois qu'il faut les laisser faire leur processus démocratique interne.
Comment analysez-vous la carte électorale à Paris après les élections européennes, Jean-Didier Berthaud ? On a vu République En Marche arriver en tête dans pratiquement tous les arrondissements, oui. Sauf 2 ou 3 qui avaient voté pour Europe Écologie Les Verts.
Pour Europe Écologie Les Verts. Bah, elle montre bien que cette évolution qu'on a connue depuis 2017, elle est aujourd'hui en train de s'intensifier. Elle montre aussi que l'offre politique, en tout cas l'offre des partis politiques traditionnels, ne correspond plus à ce que les électeurs attendent, et que les électeurs sont aussi, avec une maturité politique due certainement aux réseaux sociaux, aux chaînes d'information continue, bref, aux informations qu'ils sont en train de recevoir de façon beaucoup plus rapprochée et beaucoup plus approfondie parfois, capables de faire des choix assez différents d'une élection à l'autre finalement. Et c'est la raison pour laquelle, sur une élection municipale, les cartes seront rebattues, qu'il est très difficile de calquer le résultat de ces élections européennes par rapport aux élections municipales, mais qu'elles ont eu l'avantage de faire prendre conscience aux uns et aux autres que, de toute façon, plus rien ne serait jamais comme avant.
Plus rien ne serait plus jamais comme avant. L'Est parisien qui vote à gauche, l'Ouest qui vote à droite, c'est un sujet dépassé aujourd'hui.
Non, vous avez quand même des fondamentaux, mais vous voyez bien que cet électorat de gauche ou cet électorat dit de droite, à l'Est ou à l'Ouest, ne se tourne plus vers ce qui les représentait de façon traditionnelle, c'est-à-dire le Parti socialiste pour la gauche ou les Républicains pour la droite. Le vote de gauche s'est exprimé beaucoup pour les Verts dans l'Est de Paris, il s'est exprimé pour la droite beaucoup pour La République En Marche dans l'Ouest de Paris. Et donc, vous voyez bien que cet électorat, il existe toujours, mais qu'il est incarné différemment.
La question écologique sera importante dans le programme de Pierre-Yves Bournazel ?
Ben, elle est même essentielle. Enfin, je veux dire, quand on est candidat à la mairie de Paris, qui est au cœur même d'une métropole avec une densité incroyable, puisque Paris est une des villes les plus denses hein, quand même au monde, qu'on puisse ne pas avoir une vision sur l'environnement, sur la transition écologique, sur les mobilités douces, sur la densification, la lutte contre la densification qu'on doit avoir dans Paris. Il a eu l'occasion de l'exprimer à plusieurs reprises, et je vous ai fait part de plusieurs de ses combats sur le sujet. Mais ça sera un enjeu majeur, et ça ne sera pas un enjeu majeur parce que c'est à la mode, ça sera un enjeu majeur parce que c'est une nécessité absolue, et parce que le travail qu'il a fait ces dernières années sur le sujet l'ont conduit aujourd'hui non seulement à ce constat, mais à cette volonté de changer les choses.
Merci Jean-Didier Berthaud. Je rappelle que vous êtes conseiller de Paris, élu du 17e arrondissement, membre d'Agir des Constructifs et membre du groupe 100% Paris. Bonsoir.
Merci pour votre invitation, bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.